VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, les électeurs dans l'attente aujourd'hui des résultats de la présidentielle de dimanche pour connaître le nom de leur nouveau président. Cette élection doit tourner la page d'une année de transition difficile et surtout des 27 ans de régime de l'ex-président Blaise Compaoré. 14 candidats, dont 2 femmes, sont en lice pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Quelques 5,5 millions d'électeurs étaient appelés à participer à ce scrutin présidentiel couplé à des législatives. Au micro de Jean-Roger Bion, retrouvons Bagassi Koura, l'envoyé spécial de VOA Afrique, pour le point sur une possible proclamation des résultats dès ce soir.
C'est une promesse de Maître Barthélémy Kéré, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Mais jusque-là, on ne sait pas si cette promesse sera tenue. Son institution aurait détenu seulement 50 des 368 communes du pays. Mais la CENI a été en mesure de publier seulement les résultats de 20 communes en cause d'une panne technique qui empêcherait l'affichage des résultats sur les écrans de contrôle du centre technique ici au quartier général de la CENI à Ouagadougou.
Alors, Bagassi, quel est le mode opératoire de ce dépouillement? Comment il se déroule?
Alors, voici comment ça se passe. À la fermeture du bureau de vote, les membres du dit bureau se réunissent donc et procèdent au décompte des voix. Et ensuite, les résultats qui en sortiront donc de ce bureau sont acheminés à la CECI. La CECI, c'est la Commission électorale communale indépendante. Et vous savez, au Burkina, il y a 368 communes. Et donc, chaque commune va acheminer ses résultats à la CEPI, la Commission électorale provinciale indépendante, qui a 45 provinces. Et donc, ces provinces vont acheminer enfin ces résultats ici à Ouagadougou via une liaison satellitaire. C'est ça l'innovation cette année. Et c'est pourquoi la CENI disait qu'elle allait publier les résultats seulement un jour après le vote. Mais avec cette panne technique, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que cette promesse sera tenue?
Alors, deux anciens barons du régime de l'ex-président Blaise Compaoré, Roch Marc-Christian Kabore et Zéphirin Diabré, étaient donnés favoris du scrutin présidentiel. Après les premiers dépouillements, sont-ils confirmés dans leur statut de favoris, Bagassi?
Oui, et comme je le disais, on a seulement le résultat de 20 communes. Et si on s'en tient à ces 20 communes, oui, leur statut de favori est confirmé pour Zéphirin Diabré aussi, Roch Marc-Christian Kabore. Donc, il devance dans ces 20 communes largement les autres candidats. Et pour l'heure, personne ne peut dire s'il y aura oui ou non un second tour. On attend encore d'en savoir un peu plus sur la suite des dépouillements.
Bagassi Koura, l'envoyé spécial de VOA Afrique, joué en Ouagadougou par Jean-Roger Bion. Au Niger, le dialogue a repris entre opposition et majorité sur les questions électorales, notamment le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante et le chronogramme des élections générales de 2016 que l'opposition conteste. Suspendue depuis quelques mois, une réunion du Conseil national de dialogue politique s'est tenue cette semaine. L'opposition en est ressortie plutôt satisfaite. Écoutons Ousseini Salatou, son porte-parole.
Je pense que si on donne suite à toutes les recommandations qui étaient faites, je dirais qu'il y a une certaine satisfaction. Nous sommes de ceux qui pensent qu'aucun bord ne peut imposer ses désirata à l'autre bord. Mais par le consensus, par le dialogue, nous pouvons nous entendre. Et ce que nous avons prôné, les gens ont refusé pendant longtemps, mais ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Et nous pensons que si nous continuons ce dialogue-là, dans le respect des lois et règlements de la République, nous allons venir à quelque chose de meilleur pour le Niger. Je dis que, en tout cas, en ce qui concerne l'opposition, en souhaitant qu'il n'y aura pas de faux bonds en cours de route pour mettre en exercice, en application ces recommandations-là, nous disons que merci et tout s'est bien passé.
Ousseini Salatou, porte-parole de l'opposition au Niger.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique centrale, le pape François vient de quitter Bangui pour Rome, ce qui met fin à sa tournée dans 3 pays d'Afrique, Kenya, Ouganda et République centrafricaine. Avant son départ de la capitale centrafricaine, le souverain pontife a déclaré aujourd'hui à la grande mosquée de Bangui que chrétiens et musulmans sont frères et qu'il fallait dire non à la vengeance, non à la violence, non à la haine. Dans l'enclave du PK5, où se sont réfugiés les derniers musulmans de Bangui en proie à des violences intercommunautaires, Le pape a été reçu par le grand imam Nehedi Tidjani en présence de délégations catholiques et protestantes. Le pape s'est adressé aux centaines de personnes, dont des déplacés par les violences, venues l'accueillir dans l'enceinte de la mosquée, dans une ambiance détendue, mais placée sous haute sécurité par la force onusienne MINUSCA, qui avait placé des casques bleus sur les minarets de la mosquée. Sonia Mokpengia, une habitante de Bangui, exprime sa joie.
L'arrivée des papes peut arrêter la violence en Centrafrique pour qu'il y ait la paix. Parce qu'il est comme un envoyé de Dieu en République centrafricaine pour l'instant. Je pense que le pape est aujourd'hui chez nous en République centrafricaine, donc il y aura la paix.
Des milliers d'habitants de Bangui ont ensuite salué chaleureusement le cortège papal qui s'est dirigé vers un stade de la capitale où a eu lieu une messe avant le départ de Bangui. RDC, 12 personnes au moins ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi dans une attaque attribuée aux rebelles ougandais, les ADF, contre une localité de l'est du pays. C'est ce qu'affirme un témoin, une ONG locale. J'ai vu 4 civils tués par balle et 7 malades et une infirmière découpée à la machette à l'hôpital, a déclaré à l'AFP un notable d'Eringeti dans le nord de la province du Nord, Kivu, où a eu lieu l'attaque. L'ONG locale, elle, avance un bilan de 30 morts. Au Tchad, fin de la 65e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, qui s'était ouvert le 23 novembre à N'Djamena. Cette rencontre a permis au ministre de la Santé des pays membres de l'organe, directeur de l'OMS pour la région africaine, de réfléchir sur le faible accès aux soins de qualité, nous dit notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar.
Tirant les leçons de l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui a mis à rude épreuve les systèmes de santé africains, la 65e session de N'Djamena a décidé de revoir en hausse le budget alloué au Fonds africain pour les urgences de santé publique afin de faire face aux maladies tropicales négligées et non transmissibles. Faisant l'état des lieux du paludisme en Afrique, la directrice régionale de l'OMS, Dr Mashidiso Moeti, a fait comprendre que la mortalité et les cas de morbidité dus au paludisme ont baissé respectivement de 46% et plus de 50% pendant les 10 dernières années. Cependant, beaucoup reste à faire, d'où la nécessité d'avoir un vaccin préventif le plus tôt que possible.
Ça a pris beaucoup d'années, c'est vrai, qu'il y a un vaccin candidat qui est en train d'être développé contre le paludisme. Le taux de l'efficacité de ce vaccin n'est pas si haut que ça a été souhaité avant. Mais quand même, je crois que ça arrive à 35 ou 40% d'efficacité. Ça peut être une des outils qui sont disponibles pour lutter contre le paludisme. Mais nous allons l'espoir que la recherche va continuer pour améliorer plus l'efficacité de ce vaccin. Donc il y a des stratégies qui soulignent le financement que les pays africains eux-mêmes doivent améliorer. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir.
À l'heure actuelle, les chefs d'État africains n'ont qu'une seule priorité, lutter contre le terrorisme. Auront-ils des ressources financières suffisantes pour injecter dans les infrastructures de recherche pour la santé humaine? Hassan Guiadoum, ministre secrétaire d'État à la santé publique et président de la 65e session de N'Djamena, répond.
Les États sont confrontés à de multiples défis et tout est priorité finalement en Afrique. Et donc, c'est pas par négligence d'un secteur, surtout en situation d'urgence généralement, on dépense beaucoup plus qu'en temps normal. Et aujourd'hui, au niveau de nos États, le terrorisme est devenu un cas d'urgence parce que c'est un ennemi invisible. Et ça demande également beaucoup de moyens. Mais je voudrais vous rassurer que la santé fait partie des priorités des pays africains et ce secteur ne sera jamais délaissé.
La session de N'Djamena recommande aux États membres de se doter d'un mécanisme de coordination entre les ministres de la Santé, les institutions de recherche et de contrôler toutes les activités de recherche pour la santé. À la direction régionale de l'OMS de réaliser tous les 2 ans une cartographie de l'état des systèmes nationaux de recherche pour la santé dans la région africaine, d'instituer des mécanismes de suivi, d'évaluation et de responsabilisation pour favoriser la mise en œuvre de la stratégie de recherche pour la santé dans la région africaine 2016-2025. André Kodumadingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Et pour terminer, la plus grande conférence sur le climat jamais organisée s'est ouverte lundi, aujourd'hui donc à Paris, en présence de 150 chefs d'État et de gouvernement. Objectif, parvenir à un accord historique pour limiter le réchauffement de la planète. Le monde fait face à deux menaces terribles, le terrorisme et le changement climatique, a déclaré à l'ouverture de la conférence Manuel Pulgar Vidal, le ministre péruvien de l'Environnement, président de la précédente conférence climat de l'ONU, qui passe le relais à Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.